Biodiversité sur RCN.
Bonjour et bienvenue dans Biodiversité. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Ruillet du collectif Des Hommes et des Arbres. Bonjour Mathieu, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, merci. Merci de me recevoir.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et votre parcours, s'il vous plaît ?
Mathieu Ruillet, j'anime depuis quelques années le collectif Des Hommes et des Arbres. Avant ça, j'ai travaillé dans la solidarité internationale. Donc, je suis un ancien de naissance, enfin, séchanais pour les spécialistes. Je pense qu'il y en a parmi les auditeurs. Et j'ai fait mes études de biologie et écologie scientifique à la fac de Vendeuvre jusqu'en 2002. Je suis ensuite parti vers le sud, à Aix-en-Provence, pour bifurquer vers les sciences politiques dédiées aux questions environnementales. Et pour finir, j'ai passé 2 ans en sociologie des conflits d'usage autour des ressources naturelles.
D'accord.
Et de là, par différents hasards, j'ai embarqué dans un premier métier de solidarité internationale auprès d'une ONG qui est basée à Marseille et qui travaille sur les questions d'énergie et de climat pendant une quinzaine d'années dans différents pays. Et au moment d'un projet de retour au pays, de retour à Nancy, pour des raisons familiales, j'ai retrouvé un cadre professionnel avec des hommes et des arbres en 2018, qui à l'époque était simplement une idée un petit peu folle portée par plusieurs organisations autour de Nancy, dont la métropole du Grand Nancy, qui consistait à proposer de construire ensemble un grand projet collectif autour du développement de la place des arbres, en prenant le parti de mettre autour de la table plein de structures différentes, plein de métiers différents. Donc au départ, l'idée de départ vient plutôt du monde de la recherche et de la forêt. Et puis rapidement, se sont agrégés des élus de collectivités locales, le monde de l'agriculture, le monde de la santé, et tous ces acteurs-là ont monté ensemble le collectif Des Hommes et des Arbres, que donc j'ai moi rejoint en tant que salarié en 2018, et depuis l'aventure continue.
Et du coup, tu fais quoi maintenant dans le collectif ?
Alors moi, je suis le directeur aujourd'hui de l'association qui a été créée en 2020, donc qui a été une étape un peu de formalisation de ce collectif. Donc je dirige l'association et depuis maintenant, on est en quelle année ?
2025,
ça fait 5 ans.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler des objectifs du collectif et des valeurs ?
Alors, les valeurs de Des Hommes et des Arbres, même si elles ne sont pas forcément écrites dans un document de plaidoyer ou quelque chose comme ça, mais je pense que ce qui rassemble les gens qui viennent jouer l'aventure avec nous, c'est principalement l'idée que en étant de différents métiers, de différentes connaissances, de différents types d'approches autour de la question des arbres, et en se mettant autour de la table, on est capable collectivement de faire avancer des solutions face à tous les défis qui se posent aujourd'hui globalement pour notre société et pour la place qu'on y fait aux arbres et tout ce qu'on peut en tirer pour avancer ensemble dans le bon sens. Donc c'est vraiment cette notion de, pour trouver les bonnes réponses, soyons le maximum de points de vue différents autour de la table pour en discuter et pour identifier les bonnes trajectoires.
Ok, et par rapport aux objectifs
Alors les objectifs, concrètement, c'est de développer la place des arbres dans toutes les dimensions possibles. Alors on n'est pas du tout limitatif parce qu'en fait on travaille principalement avec des personnes qui viennent nous rencontrer avec leurs idées et leurs projets. Donc on carbure aux surprises en fait tout le temps, et ça c'est vraiment pour moi un des aspects les plus intéressants de ce travail. Ça veut dire qu'on a commencé par travailler plutôt avec des projets autour de la forêt, bien sûr, de l'arbre champêtre, de l'agroforesterie, de l'arbre en ville aussi, avec des projets de développement, de bonne santé de ces espaces arborés. Mais assez rapidement, on a travaillé aussi avec plein de d'organisations qui non seulement prennent soin des arbres, mais en vivent, en tirent des activités, des matériaux, des services. L'objectif, c'est d'aider ces projets en fait à se développer, à s'implanter localement et à effectivement apporter des réponses positives pour un maximum de monde et pour comme on dit parmi les technocrates, le territoire, le bien-être et le développement du territoire dans son ensemble. Donc ça veut dire qu'on s'intéresse à la fois à la bonne santé des écosystèmes, mais aussi de tous ceux qui y vivent et de tous ceux qui en vivent, en cherchant les lignes d'équilibre entre toutes ces questions-là.
Et quand vous recevez le collectif des projets, est-ce que c'est plutôt des projets de professionnels, d'associations ou de particuliers ?
Alors, pas de particulier. C'est le seul frein à l'entrée. Les projets qu'on reçoit, qu'on présente à notre collectif et qu'on accompagne éventuellement lorsqu'ils reçoivent le label des hommes et des arbres, doivent nécessairement être portés par une organisation constituée. Mais elle peut être de toute nature, entreprise, association, collectivité locale, syndicats, quelle que soit la structure, on accueille tout type de projets portés par tout type de structure.
Et est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe quand vous recevez ces projets, comment vous les organisez, comment vous en parlez ?
Alors quand on reçoit un projet, quand un projet se présente à nous, certains aussi on va les chercher parce que on trouve qu'on en entend parler et puis on trouve qu'ils vont potentiellement dans le bon sens. On les présente chaque trimestre à l'ensemble du collectif, c'est-à-dire qu'on invite tout le collectif. Aujourd'hui, c'est un peu plus d'une centaine d'organisations et de citoyens aussi, une petite dizaine de citoyens, parce qu'on peut adhérer à l'Association des Hommes et des Arbres en tant que citoyen, librement, et en tant qu'organisation tout aussi librement. Donc on invite tout le collectif à venir découvrir ces projets-là. Alors, pour motiver tout le monde, on essaye de présenter des projets de manière un petit peu intrigante ou en tout cas de mettre en avant à la fois la solution qu'ils essayent d'apporter sans trop en dire aussi. On ne révèle pas le nom du porteur du projet en fait à ce stade-là. Et donc par retour de mail ou de téléphone, différentes personnes du collectif se manifestent en fait pour venir découvrir, et en général c'est plutôt on a envie d'en savoir plus, qui c'est le porteur, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il va faire concrètement. Donc toutes ces motivations-là en fait sont aussi le carburant du collectif, c'est-à-dire qu'on peut être intéressé parce qu'on trouve que ça a l'air chouette, on peut être aussi potentiellement irrité parce que justement c'est le type de projet contre lequel on porte des enjeux qu'on veut défendre. On peut être intrigué, c'est souvent le terme qui revient. Ça peut être aussi une entreprise qui potentiellement voit là soit un partenaire, soit un concurrent. Donc en fait, tous les ressorts qui donnent envie d'en savoir plus et d'apporter son point de vue ou ses enjeux sur le projet présenté sont pour nous la façon de recruter en fait parmi les membres du collectif, des personnes qui veulent venir participer à la présentation et à l'analyse collective du projet. Ça veut dire que pour chacun des projets qui se présentent au collectif, il va rencontrer un petit groupe de membres, en général entre 10 et 15, mais qui est différent à chaque fois, en fonction des personnes qui auront souhaité en savoir plus et apporter leur point de vue sur le projet. Puis on va aussi, nous, bien sûr, chercher, plutôt pour des questions d'éclairage entre guillemets expert, tel ou tel laboratoire de recherche, tel ou tel acteur qui a déjà fait peut-être quelque chose un peu dans le même esprit que le projet qui est présenté. Et donc nous, on va, équipe salariée de l'association, chercher aussi des personnes spécifiques pour participer à cette analyse collective.
Et du coup, vous allez choisir les projets selon des critères spécifiques ?
Oui, mais là aussi qui sont assez ouverts. Alors, on a quand même un critère important qui est que, comme on est un collectif qui est quand même ancré historiquement sur la Lorraine et aujourd'hui sur l'ensemble de la région Grand Est, il faut que le projet soit porté par une structure qui existe en région Grand Est, ou bien, et c'est assez souvent le cas, par une structure qui n'est pas de la région, mais qui a envie de venir travailler à la rencontre de toute la richesse qu'on a en région sur le sujet des arbres, parce que c'est quelque chose effectivement dont on pourrait parler, des massifs forestiers qui ont plusieurs qualités, plusieurs spécificités par rapport à l'ensemble des forêts de France, mais aussi plein d'acteurs, plein de ressources et plein de pépites en région autour de ces sujets-là, plein de compétences. Donc on a aussi pas mal de porteurs de projets qui viennent d'ailleurs et qui ont envie de venir travailler avec des gens dans la région et pour lesquels nous on sert un petit peu de point d'entrée, de point d'aiguillage à travers l'ensemble des personnes qui constituent le collectif aujourd'hui.
D'accord, merci. Nous allons faire une petite pause en écoutant Blue Angels de Fearless Flyers.
Jusqu'à 12h30, biodiversité sur RCN, avec Clotilde Gougelin.
Nous sommes toujours avec Mathieu Rullet du collectif Des Hommes et des Arbres. Mathieu, tout à l'heure, tu nous as parlé que les citoyens ils pouvaient devenir adhérents au collectif. Est-ce que tu peux nous parler des rôles et des actions qu'ils peuvent avoir dans le collectif ?
Oui, en fait, comme tous les autres membres du collectif, les personnes qui adhèrent en tant que citoyens sont invitées à participer aux différents moments d'échanges qu'on organise soit autour des projets concrets qu'on présente au collectif, comme on en parlait tout à l'heure, soit sur les autres formats qu'on propose et sur lesquels on mobilise les membres. En l'occurrence, on travaille aussi des fois sur des sujets que moi j'appelle orphelins, c'est-à-dire des sujets sur lesquels on sait qu'il y a un enjeu important, mais sur lesquels on n'a pas encore de porteur de projet identifié qui vient présenter une solution et qui vient se soumettre, entre guillemets, au regard du collectif des hommes et des arbres. Par exemple, on a un sujet important autour de l'impact des arbres et des espaces arborés sur la santé humaine, autour des pratiques comme les bains de forêt, par exemple, dont on entend beaucoup parler. Ce sont des pratiques qui se développent, mais pour lesquelles, aujourd'hui, on n'a pas encore de porteur de projet qui s'est présenté. Donc, ça, c'est des formats un peu plus, on va dire, exploratoires, où on se questionne en fédérant à la fois des personnes intéressées, mais pas spécialement, qui ne se considèrent pas expertes, et puis de l'autre côté, où on fait intervenir des acteurs de la santé, des acteurs de l'aménagement forestier. Et c'est vraiment là-dessus qu'on situe notre travail, quoi, dans cette possibilité de faire se rencontrer des experts, des non-experts. C'est difficile, parfois, avec certaines personnes, de leur expliquer qu'elles ont toute leur place dans les échanges qu'on organise, même si elles ne se considèrent pas expertes. Et puis, c'est aussi parfois difficile, avec les experts, de leur laisser une place relative dans un tour de table et de pas les laisser prendre la parole pendant l'intégralité des ateliers. Mais ça, c'est vraiment notre boulot, notre spécialité, que d'équilibrer les paroles. Et puis, en étant sur cette idée que une personne qui elle-même, par exemple, pratique la forêt au titre de ses loisirs, elle apporte aussi ce que certains appellent de l'expertise d'usage, c'est-à-dire qu'elle sait, elle, précisément, ce qu'elle attend de la forêt, ce qu'elle vient y trouver, ce qu'elle y ressent. Et donc, tous ces apports, en fait, peuvent être extrêmement, extrêmement pertinents pour identifier ensemble ce qu'on pourrait faire autour d'un sujet. Même chose autour des projets qui viennent se présenter, en fait, parce que un certain nombre de ces projets s'adressent au public en général. Et c'est aussi très précieux pour un porteur de projet qui est en train de développer une idée que d'avoir en face de lui des personnes, entre guillemets, réelles, qui pourraient être bénéficiaires ou clients de la solution qu'il essaye de proposer pour ajuster son projet le plus tôt possible aux attentes réelles des personnes qui peut être amené à rencontrer grâce au collectif.
Et est-ce que le collectif, il organise des événements avec du public pour sensibiliser, par exemple ?
En théorie, non, parce que c'est pas notre mandat de faire des choses à la place de nos membres. En fait, le collectif est finalement assez récent, puisqu'on a parlé tout à l'heure rapidement de la genèse du collectif, mais première discussion, entre guillemets, autour de cette idée des hommes et des arbres en fin 2017, constitution officielle de l'association en 2020. On travaille depuis 2021, donc on est assez jeune et on est constitué par plein de gens qui font plein de choses super sur tous ces sujets-là, dont beaucoup d'associations d'éducation populaire, d'éducation à l'environnement, de médiation scientifique, de médiation artistique, qui eux sont au contact avec le public et eux proposent des événements, des rencontres, différents formats, des ateliers participatifs, etc., etc. Donc nous, notre travail à l'échelle du collectif, c'est vraiment de mettre en avant ce qu'ils font eux et puis de créer des liens, des synergies entre des acteurs qui ne se connaissent pas forcément encore et qui peuvent avoir intérêt à développer des choses ensemble. Cela dit, on est quand même parfois amené en direct à porter des choses parce qu'on a aussi cette place un peu particulière d'être au milieu de plein de métiers, comme je le disais tout à l'heure, de plein d'enjeux différents. Et donc, on a une espèce de posture de... nos amis scientifiques appellent ça le tiers de confiance. On est moins tiers de confiance que l'université, que la recherche, mais on a quand même un petit peu une identité comme ça. Et donc, par exemple, fin 2023, on a été amené à organiser avec le syndicat des entreprises de la forêt et du bois des assises régionales pour questionner l'avenir des forêts et du bois en région Grand Est à l'échelle 2100. Et là, pour le coup, c'est nous qui avons été organisateurs, bien sûr en travaillant avec les différents membres qui étaient intéressés sur le sujet. Donc voilà, en théorie non, mais ça arrive qu'on le fasse parce que voilà, on a cette place un peu particulière.
D'accord. Et est-ce que le collectif, il travaille avec d'autres collectifs, associations ou autres qui rejoignent vos actions ?
Alors, on fait partie à l'échelle nationale, se présente pas comme un collectif avec ce terme-là en tout cas, mais d'un réseau de projets qui sont un peu câblés comme nous, qui sont un peu construits comme nous, comme le collectif des hommes et des arbres, mais sur des sujets différents. On fait en fait partie d'un programme national qui est porté et soutenu par le bureau du Premier ministre, qui s'appelle Territoire d'innovation, territoire au pluriel. Donc on est 24 à l'échelle de la France métropolitaine et outre-mer à partager cette espèce d'objectif un peu étonnant, mais qui est à nouveau, qui est nous, notre carburant, de dire on va faire avancer à l'échelle d'un territoire qui peut avoir tout type de taille. Hein. Certains des territoires d'innovation sont portés par des métropoles ou des communautés de communes. D'autres sont à des échelles plus larges comme nous à l'échelle régionale et qui visent à voilà, faire avancer leur sujet, expérimenter sur leur sujet. Il y a en quelque sorte constituer des terrains favorables au développement de nouvelles idées, de nouvelles solutions, en prenant le parti de mettre autour de la table la recherche, les élus locaux, les citoyens, les associations, les entreprises, petites et grandes.
Et est-ce que tu peux nous dire en quoi il est important de sensibiliser la population à la biodiversité, ici aux arbres par exemple ?
Alors, pour plein de raisons, dans le désordre, on voit bien qu'il y a une attention qui augmente de manière générale sur ces sujets-là. Et donc, ça veut dire que tous les nouveaux projets qu'on peut voir se développer localement font l'objet d'un regard, soit par les médias, soit directement par les citoyens, les riverains, soit par des collectifs, soit par des associations, que nous, on considère comme des vigies, voilà, ou des porteurs attentifs ou des lanceurs d'alerte ou ce type de notions qui sont là pour voilà pour qui se mandatent elles-mêmes hein, pour voilà être attentifs aux enjeux, aux impacts d'un projet qui peut se développer et donc c'est important d'être à l'écoute de cette attention portée par des citoyens organisés ou pas. Parce que voilà, ils ont ce rôle de vigie. Et pour le porteur de projet lui-même, qu'il soit sensible ou pas à ce type de questions, dans tous les cas, c'est un risque. Parce que un porteur de projet entrepreneurial qui développerait quelque chose et qui rencontrerait des questionnements, voire des oppositions en local, ça veut dire déjà. Des embêtements, ça veut dire que c'est pas agréable pour lui, évidemment, et puis ça veut dire aussi possiblement des durées de projet qui se rallongent, voire un projet qui finalement n'aboutit pas à la fin. Donc c'est aussi pour un porteur de projet une façon de c'est un risque en fait qu'il s'agit de gérer quoi. Donc nous on voit vraiment avantage à pouvoir détecter ce type de risque le plus tôt possible. Pour que le porteur de projet en ait conscience. Donc voilà, nous, c'est vraiment notre premier rôle quand il y a des projets voilà, à impact potentiel ou qui pourraient lever des oppositions locales. On cherche vraiment, nous, et on invite les porteurs de projet à travailler avec nous pour, le plus vite possible, faire leur coming out, entendre des critiques ou des interrogations et être capable soit d'y répondre, quand il s'agit simplement d'y répondre, mais la plupart du temps, ce n'est pas ça, soit de les intégrer en fait dans le projet et de dire ok, j'ai entendu qu'il y avait tel type de critique qui pouvait s'opposer et donc je fais bouger mon projet pour qu'il s'adapte aux attentes de tous. Et ça marche avec les citoyens, mais ça marche aussi avec plein d'autres types d'acteurs parce qu'un projet peut aussi rencontrer des oppositions de la part d'un métier qui va se trouver en difficulté par l'arrivée de ce nouveau projet-là. Et donc là aussi, il s'agit de réussir à écouter d'abord, c'est le plus difficile. L'autre partie qui apporte un regard sur son projet Et puis ensuite, réussir à faire bouger son projet avec, en intégrant voilà, les attentes qu'on peut recueillir.
Il y a un label des hommes et des arbres qui existe. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ?
Ouais, le label des hommes et des arbres, c'est ce à quoi accèdent les porteurs de projets qui se sont présentés au collectif et sur lequel le collectif a établi collectivement que la solution qui est développée par le projet peut être une contribution intéressante aux défis qu'on s'est donné ensemble. Le collectif des hommes et des arbres, dès le départ, a identifié 5 grands défis pour développer la place des arbres dans la société. Et donc, les projets qui viennent se présenter au collectif sont toujours potentiellement apporteurs d'une contribution, quelle qu'elle soit, petite ou grande, une toute petite brique ou une très grosse brique. On accueille tout le monde. Donc, le projet labellisé, ça veut dire qu'il est reconnu comme potentiellement pertinent. Ça veut dire aussi que le porteur de projet s'engage. Parce que le label des hommes et des arbres est un label d'engagement. C'est pas pour dire le projet est parfait, félicitations, merci, au revoir. C'est plutôt de proposer aux porteurs d'embarquer avec nous, d'embarquer au sein du collectif et de travailler sur des préconisations qui lui sont faites par le collectif. Parce qu'en fait, systématiquement, les projets, quand ils sont considérés comme potentiellement pertinents, il y a aussi toujours des préconisations qui sont faites et qui émanent, qui ne sont pas des choses d'experts en tant que tels, mais qui émanent justement de cette analyse à plein de regards différents autour des projets. Donc voilà, deuxième aspect du label. Premier aspect, c'est une reconnaissance de pertinence basée sur vraiment une analyse avec de nombreux enjeux et de nombreux acteurs autour de la table. Le deuxième, c'est l'engagement du porteur à suivre les préconisations qui sont établies à partir du regard multi-angle porté par le collectif. Et le troisième volet, c'est que les projets labellisés bénéficient d'un accompagnement de notre part, donc de l'équipe salariée de l'association, qui consiste à faciliter toutes ces mises en relation avec les différentes ressources dont ils peuvent avoir besoin pour faire avancer son projet dans le bon sens. Ressources qu'on va chercher au sein du collectif, en fait. Donc voilà, j'ai besoin de l'appui d'un laboratoire de recherche, j'ai besoin d'un financement par une collectivité locale, j'ai besoin d'un fonds d'investissement, j'ai besoin d'un partenaire industriel. La richesse du collectif permet d'aller mobiliser des ressources au service du bon développement des projets labellisés.
Et pour finir, est-ce que un de ces défis a été relevé ? Un des défis du label ?
Non.
Ah.
Non, parce que c'est des défis vraiment de long terme et assez généraux. Mais par contre, oui, il y a plein de projets qui aujourd'hui sont arrivés à maturité et qui offrent leurs solutions à ceux qui peuvent voilà, rencontrer la problématique concrètement. Donc oui, on a plusieurs solutions qui sont aujourd'hui appelées matures, c'est-à-dire que la phase de développement, la phase de projet est terminée et la solution existe, elle est disponible. On a par exemple un des tout premiers projets qui est arrivé, projet labellisé qui est arrivé en fin de cycle. Ça a été le projet TERAF, comme territoire agroforestier, un projet qui a été développé par l'Institut national de la recherche agronomique et environnementale, l'INRAE, de Mirecourt et la Chambre d'agriculture. Et qui a consisté à développer toute une méthode pour accompagner le développement de l'agroforesterie à l'échelle d'un petit territoire. Donc c'est une méthode, elle aussi participative, avec voilà, tout un set d'outils qui sont disponibles pour des collectivités ou même pour des collectifs citoyens ou associations qui voudraient développer l'agroforesterie sur leur territoire. Avec voilà, toute une série d'outils à disposition dans un grand guide disponible sur le site internet du collectif des hommes et des arbres pour que de la méthode puisse être reconduite tout ou partie par d'autres acteurs.
Ok. Eh ben merci Mathieu d'être venu. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Biodiversité.